Raison gardée sur RCN avec la libre pensée de Meurthe et Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Raison gardée avec moi aujourd'hui Charles. Bonjour Charles.
Bonjour.
Et Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude.
Salut Sylvie, salut Charles.
Alors aujourd'hui dans cette émission au programme, on va parler des luttes qui nous touche, d'un collectif auquel appartient aussi la Libre Pensée. On fera un petit peu un droit de suite sur le sujet qu'on avait traité dans la dernière émission à propos de la fin de vie, mais on prendra aussi un petit peu le temps pour un petit topo historique sur non pas la loi de la laïcité dont on a parlé l'année dernière parce qu'on fêtait les 120 ans, mais sur un autre une suite logique plutôt de cette loi qui a été la question des inventaires qui avait commencé justement en février-mars 1906.
Voilà,
on parlera de ça tout à l'heure. Mais pour commencer, Charles, je te proposais de nous parler d'un événement auquel tu as participé. Alors, il y a peu de temps, au moment où nous enregistrons, c'était au début du mois de février, tu as fait partie de toute une équipe en bus. Vous vous êtes rendu en Meuse. Raconte-nous un peu ça.
À l'appel d'un collectif antifasciste, il y avait déjà eu une manifestation en novembre devant la préfecture. On était déjà nombreux. Là, on dit qu'on était 450, je ne sais pas exactement.
Combien selon la police ?
C'est jamais assez, mais enfin, c'était quand même à l'appel de plusieurs syndicats, Solidaires, CGT, plusieurs organisations politiques. Et donc, oui, de Nancy, de Lunéville, Nancy et tout, les partis en bus. On était 85 quand même dans le bus, ce qui est pas mal. Donc, l'arrivée là-bas, on était dans un village dont j'ai oublié le nom, pour rejoindre Combres-sous-les-Côtes à pied, pour manifester pour la fermeture d'un lieu qui s'appelle la Taverne de Thor, et qui est un lieu qui réunit des gens d'extrême droite, les Amerskins, un nom comme ça. Donc c'est une organisation qui a ses origines aux États-Unis et qui prône bien sûr la supériorité de la race blanche, pour parler comme eux, quoi, parce que pour moi, il n'y a pas de race.
Et la violence.
Des suprémacistes.
Alors, cet endroit qui est organisé donc, des concerts... à internationaux, parce qu'il se trouve que le Grand Est, il se trouve pas loin des frontières allemandes, luxembourgeoises, belges, suisses, et se retrouvent, des regroupements se retrouvent dans cette taverne-là, ou des concerts rock, bien sûr, avec Salut Nazi, et on en passe, et aussi des combats MMA, donc c'est des combats de boxe où tout est permis à main nue. Mais c'est une profession. Pour certains, parce que ça passe à la télévision, malheureusement, mais eux, c'est vraiment dans leur milieu qui est très fermé. Donc, ça fait donc plusieurs fois que des personnalités antifascistes de la Meuse alertent, mais pour le moment, le préfet, les élus sont plutôt laxistes, pour pouvoir dire pire que ça. Je dirais même complaisant, finalement, parce que quand on a un Longuet aussi qui était à la tête de la Meuse longtemps, deux députés RN, forcément, ça peut poser des questions quand même sur le niveau de laxisme pour ne pas lutter contre la fermeture de cette taverne-là. Donc ça s'est bien passé. En général, on avait très bien accompagné par la gendarmerie. Il y avait à peu près 120 gendarmes. Hein. Le village de Cambres-sur-les-Côtes a été totalement bouclé par la gendarmerie pendant toute la durée de la manifestation jusqu'à ce que l'on parte. Donc, nous, qui interdisait l'approche de cette taverne-là. Donc, les gendarmes étaient chargés de protéger un repère nazi. C'est quand même assez fort de café, quoi. Alors, ce qui est malheureux dans cette histoire-là, dans les journalistes qui ont rapporté là-dessus, c'est qu'il y a eu un petit incident, et là-dessus, on en a fait tout un pataquès. Bien sûr, il y a quelques personnes qui ont voulu aller devant les gendarmes qui barraient l'accès à cette taverne-là, et il y a eu une grenade, des goupillés. Enfin, moi, je n'ai pas vu ça, mais parce que je suis rentré dans le village, et la majorité sont rentrés dans le village pour rejoindre un lieu festif. Voilà. C'est le seul incident Mais hier soir
tout
encore,
petit incident, hein.
Oui, hier soir sur Arte, il y a eu une photo du aérienne du sacré hangar là, et la fumée, les fumigènes qui passaient comme ça, alors que ça a été vraiment rien quoi. Le village a été entièrement bouclé, on n'a vu aucun élu du village, on n'a vu qu'une ou deux personnes qui sont apparues comme ça à nous regarder défiler, mais le village a été complètement bouclé. Par contre, ce qu'il y avait aussi qui a été oublié de dire par la presse, c'est qu'il y avait quand même 3 députés.
Il y avait
Porte,
Thomas Porte, donc Thomas député Porte, France Insoumise.
Et il y avait Smith.
Anthony Smith, qui est député européen.
Et un
Bex.
Autre qui vient de... Oui, voilà. Christophe Bex, qui a des origines meusiennes et qui est élu en Haute-Garonne, mais qui tenait à être là. Et ils portaient l'écharpe, donc ils étaient bien visibles. Tous les journalistes qui étaient là, ils les ont bien vus. Mais là, dans la presse, que dalle, hein, à la télé, rien du tout. Hein, pour que... Et d'autres élus de la région, paraît-il, que je ne connais pas. Donc ça, c'était la deuxième fois qu'on y retourne en peu de temps. Je pense qu'il faudra y retourner. Hein, mais c'est, alors... ça a eu un avantage quand même de que cette organisation-là, c'est que l'ex-républicain a quand même fait la veille de cette réunion un article annonçant cette manifestation, disant qui a copié ça et pourquoi on demandait la fermeture. Et le lendemain de la manifestation, il y a eu quand même 2 pages complètes dans les Républicains. Donc, il y a la presse locale, il y en a fait donc état, et ça a remonté aussi national. Moi, je ne sais pas sur la 3 à Nancy ou ailleurs que ça s'est passé. Hier soir, à ma grande surprise, j'ai vu que ce journal de Arte, c'est un des rares journaux que je regarde de temps en temps quand même, et qui a passé ce truc-là. Mais malheureusement, en assistant un petit peu trop sur un micro-accrochage, quoi, c'est disant, voilà.
Oui, il y avait un article dans Le Monde, il y avait un article dans Mediapart.
C'est... Mediapart.
Oui. Moi, je l'ai vu à la 3, ou à Arte, ou les deux, je ne sais plus, mais effectivement, il y avait un petit reportage.
Donc, c'est une animatrice de la Meuse qui s'appelle Doris Vars, qui est membre du Parti communiste, qui est aussi la principale animatrice. Il y avait des gens qui avaient joué le jeu parce qu'elle voulait un défilé forme carnaval, mais bon, c'est vrai qu'il y en a qui étaient costumés et tout ça. Moi, je défile jamais avec un masque. Moi, je suis fiché de longue date, hein, je pense, depuis 68, je pense. Donc, je trouve que des fois, c'est un peu dommage qu'il y ait des personnes masquées, mais ils disent beaucoup que. Pour certains activistes et telles personnes qu'il faut mieux être masqué parce que ces gens-là sont très violents et ils sont sous très sournois. Donc il a fallu qu'on quitte qu'on reste toujours bien groupé, quoi. C'est une recommandation importante.
Il y a une véritable violence. Alors cette taverne, elle avait déjà été mise en place à Toul il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, c'est la première manifestation contre l'installation de ces Hammerskin, ces néo-nazis dans ce hangar agricole en Meuse, avait été organisé aussi par le milieu antifasciste, syndical et politique de Nancy jusqu'à Combres, sous les côtes. Et puis voilà, 10 ans plus tard, le hangar sert toujours à ces rendez-vous de nazis qui viennent effectivement de France, d'Allemagne, etc. Ce sont effectivement des gens très très violents, et c'est vrai que les militants antifascistes qui sont justement assez actifs craignent, oui, d'être identifiés. Enfin, ils se protègent en se masquant. Et là, effectivement, j'ai déjà vu cela annoncé aussi, l'idée de se masquer de manière festive, justement parce que, voilà, certains trouvent que des tenues toutes noires peuvent être un peu intimidantes et peut-être, comment dire, inquiéter et repousser des personnes qui voudraient venir à la manifestation. Mais là, il s'agissait justement de donner un petit caractère un peu joyeux et coloré, tout en préservant les identités grâce à des masques. Donc il y a eu quelques masques, effectivement, de ce que j'ai vu sur les photographies, ce que malheureusement, je n'avais pas pu y être. Jean-Claude ?
Mais allez-vous taxer de provocation, de provocateur, parce que quand on a affaire à des gens comme ça, qui sont des ultra-violents et qui n'hésitent absolument pas, eux, ils tapent et ils ne discutent pas, je pense que la présence de forces de l'ordre, elle est importante. Parce que c'est pas la peine d'aller se faire démonter là-dessus. Ce qui est important, c'est de manifester notre opposition à ça, c'est de nous exprimer. Hein, je reprends souvent une phrase qu'on a attribuée à 10 personnes au moins, c'est pas les mauvais gens qui abîment la société, c'est pas eux qui l'abîment le plus, c'est le silence des bonnes gens. Et on a besoin d'être sur des trucs comme ça. Bon, j'y étais pas, on peut pas être partout, mais il faut être là, effectivement, pour faire acte de présence, pour dénoncer.
Moi, j'ai été assez effarée des commentaires que certains ont écrits sur les réseaux. Je l'ai regardé, les pages justement sur les réseaux sociaux de la presse locale. Alors bien sûr, dans ces cas-là, souvent ceux qui s'expriment sont ceux qui s'opposent à la manifestation et qui notamment mettent en avant la liberté d'expression en disant bah voilà, ils sont dans un hangar privé, ils font bien ce qu'ils veulent, etc. Alors que le hangar soit privé pose des problèmes sans doute juridiques pour interdire certaines manifestations dans ce hangar. Ouais. Cela dit, l'expression de certaines idées tombe sous le coup de la loi. Et puis, je crois que c'est Jean-Pierre Vernant, qui est un résistant et un grand spécialiste de la pensée grecque, qui avait eu cette formule pour évoquer justement les questions de tolérance et de liberté d'expression. On ne parle pas cuisine avec des anthropophages.
je connais Jean-Pierre Vernant.
Je crois que je vais faire mienne cette expression. On ne peut pas tolérer les intolérants, en fait.
Absolument. Et
la tolérance vraiment dangereuse, elle est dans ce camp-là de personnes qui continuent à faire vivre des mouvements fascistes, nazis, dont on sait exactement quels sont les objectifs et à quel point... Ils veulent détruire des pans entiers de l'humanité, c'est clair.
C'est strictement la façon dont les problèmes se sont posés en Allemagne avec la montée du nazisme, il ne faut pas l'oublier. Il y avait des manifestations violentes qui n'étaient pas réprimées parce que ça arrangeait bien. Et puis les nazis, les SA comme les SS plus tard ont mis en place des milices. Hein. Mais c'est comme ça que ça commence et on ne sait jamais comment ça s'arrête. Mmh.
C'est pour ça, la personne qui a dit, il ne peut pas rester silencieux.
Non.
C'est pour ça. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Les gendarmes étaient là, et c'est vrai que c'est, pour moi, c'était plutôt rassurant du fait qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont agi que par rapport à quelques petites provocations, mais c'est tout. Mais pour moi, c'était quand même. Ils étaient présents du départ à la fin de ce cortège-là. Donc c'est la première fois, je vois qu'on a autant. C'est la gendarmerie qui était là.
Oui, bah c'est en milieu rural, c'est toujours la gendarmerie.
Ils étaient à peu près 120 quand même. Mais c'est vrai, c'est ceux qui disent rien qui sont, pour moi, plus coupables que ceux qui agissent finalement.
Ils sont complices.
Qui ne dit rien qu'on sent.
Je vous propose une première pause musicale, messieurs Eric Mie.
Algériens jaunes et nos pères, habillés de vert pour en faire, de beaux bourreaux quittaient leur terre, l'adolescence pour l'enfer. Cette Algérie rouge de sang, c'est si bizarre, nul ne sent souci autant que ce vieux sang, main qui gémit, c'est agaçant. Tournait la jeugène qui violait, tenaillait sans gêne. Est-ce un gradé dont la droiture contestait toutes les tortures? Qui tournait la jeugène qui souillait, profanait sans gêne un corps meurtri à l'auditoire? Parle d'un général bizarre. Amnésie institutionnelle, coup de massue sur notre tête. Tu connais pas la ritournelle, c'est la valse brute et secrète. Trou de mémoire criminelle, comme autant de jours effacés. Tourner la manivelle, on n'en a pas encore assez. Qui violait, tenaillait sans gêne. Est-ce un gradé dont la droiture contestait toutes les tortures? Qui tournait la gégène? Qui souillait, profane et sans gêne, un corps meurtri à l'auditoire parle d'un général bizarre. Notre papa n'en parle pas, notre pays est dans l'oubli. Ainsi on marche sur les pas des amnésiques vieux nazis. Si ma chanson, si mon propos vous dérange à mes romans, si le passé vous oppresse de trop, oubliez tout, c'est si facile. Tournait la gégène, qui violait, tenaillait sans gêne. Et S-ingradé, dont la droiture contestait toutes les tortures. Qui tournait, tournait la gégène, qui souillait, profane et sans gêne. Un corps meurtri à l'auditoire parle d'un général bizarre.
RCN, raison gardée, avec la libre pensée de Meurthe-et-Moselle.
Oui, nous allons aborder un autre sujet que cette chanson introduisait un peu, la Fédération de la libre pensée 54, avec beaucoup d'autres groupes, fait partie d'un collectif qui s'appelle Histoire et mémoire dans le respect des droits humains, qui est un collectif qui s'est fondé à Toul en 2024. Pour lutter contre l'installation, elle a eu lieu depuis, hein, mais contre l'installation de la statue du général Bijard, figure de la guerre entre la France et l'Algérie, la guerre de décolonisation.
Et de la torture.
Et voilà, effectivement, maître est torture. Bijard, il a toujours nié avoir lui-même torturé, mais en tout cas, il l'a enseigné. Notamment au moment de la bataille d'Alger. Et Bijard étant né à Toul, une statue a été installée par une fondation qui s'appelle la Fondation Bijard, qui rassemble de la famille et des amis de ce monsieur. Et malgré les courriers envoyés à la mairie et les différentes actions menées pour alerter sur ce que représente Bijard et essayer de faire entendre notre voix et exprimer notre désaccord, la statue a été installée un 24 octobre. Et donc depuis, tous les 24, le collectif assure une animation très souvent au pied de la statue, là où la statue a été installée, où les personnes se rassemblent, on y lit des textes, on y chante des chansons, on en écoute. Mais le collectif propose aussi un spectacle théâtral, déjà justement sur la France, un spectacle qui s'appelait La France Empire, qui évoquait justement la France coloniale, des diffusions de documentaires, des conférences, puisqu'on avait commencé par une très belle conférence de deux historiens spécialistes justement de la guerre d'Algérie, qui sont Rissé Pouty et Russio. Et le 24 janvier, le collectif avait proposé à la fois un documentaire et des témoignages d'invités qui nous avaient fait le plaisir de se déplacer du sud de la France. Alors ce documentaire s'appelle « Ce que la guerre a fait de nous ». C'est un documentaire qui a été réalisé par un ancien danseur qui est devenu réalisateur, qui s'appelle Romano Bottinelli, dont le père a été un soldat appelé en Algérie. Le réalisateur, qui n'avait pas pu être présent, mais qui nous avait envoyé une petite pastille vidéo pour introduire son documentaire, racontait que, à la suite d'un voyage en Israël et en Palestine en 2011, voyage lors duquel il a pu voir s'exprimer toute la haine entre les hommes, puisqu'il s'est passé justement le temps de sa présence un attentat, a pris conscience de toute la violence de ces guerres coloniales, et à son retour, il a, comme soudain, pris conscience également du fait que son père avait participé à un conflit de cette sorte, et il a commencé à vouloir l'interroger. Et il a rencontré les membres d'une association qui s'appelle la 4ACG, ce sont les anciens appelés d'Algérie et leurs amis contre la guerre, 4ACG, qui est une association très importante qui rassemble des personnes qui viennent justement témoigner. Ils ont été appelés, ils ont été harquis, ils ont été pour le FLN, contre le FLN, etc. Et qui racontent justement ce qu'ils ont vécu. Ils vont dans les écoles, ils témoignent, ils partagent ce passé qui est un passé extrêmement douloureux pour eux. Et le documentaire, donc « Ce que la guerre a fait de nous », qui dure une petite heure, nous a permis d'entendre des personnes que Romano Bottinelli a pu enregistrer. Certains étaient présents avec nous le 24 janvier, et d'autres n'avaient pas pu venir. Je vous propose simplement très rapidement d'écouter une petite minute de très courts extraits des témoignages que l'on pouvait entendre dans ce documentaire.
Tes parents, ils t'ont pas posé de questions ?
Non.
Tes amis t'ont pas posé de questions ?
Non.
T'avais une copine à l'époque ?
Non.
T'as vu des prisonniers ?
Oui.
Dans quel état ?
Non, pas bon état. Ben, j'ai jamais vu un prisonnier pas torturé. Et au combien ? Et au comment ?
Moi, ce qui nous a beaucoup, beaucoup marqué, tout ça, toi, c'est ces gars qui étaient là-bas, qui possédaient, qui avaient des machins, tout pas possible, tout ça. Et puis que les autres crevaient de faim alors qu'ils étaient chez eux. Toi, ça m'a... Oh, je me dis, cette guerre, pour quelle raison payer des gens pour... Allez, non, ça vraiment, c'était une injustice pas possible.
Voilà, deux très courts extraits de témoignages. Certains sont... dans le détail plus insupportable à écouter, et peut-être pas mettre entre toutes les oreilles, pas des oreilles trop jeunes. En tout cas, si ça vous intéresse, alors petite publicité entre Radio Libre, c'est sur Radio Déclic, c'est en podcast sur Radio Déclic, vous pouvez écouter l'enregistrement des invités par le collectif. Grâce à Vincent, que je remercie ici, qui est venu de la part de Radio Déclic nous enregistrer. Vraiment, je vous engage à aller écouter cet enregistrement. Il est extrêmement touchant. Il donne vraiment à comprendre la violence de ces conflits et la façon dont elle détruit, bien sûr, les Algériens qui ont été la cible de la rapacité française, mais aussi tous ces jeunes gens qui avaient 20 ans et qui se sont retrouvés appelés en Algérie, témoins et parfois même acteurs de cette horreur coloniale. Voilà, et si vous avez l'occasion, je redonne le nom du documentaire de Romano Bottinelli, « Ce que la guerre a fait de nous ». Voilà, j'avais envie de dire un mot sur ce moment partagé par la Libre Pensée avec nos amis du collectif. Je voulais aussi, Jean-Claude, qu'on revienne un petit peu sur ce qui avait été l'objet de notre précédente émission, à savoir la question de la fin de vie. On avait parlé du procès intenté à des adhérents d'Ultime Liberté. On avait parlé du résultat de ce procès, donc des quelques peines avec sursis. Vous faites appel. Je rappelle que quelques adhérents d'Ultime Liberté donc, ont été condamnés pour avoir aidé des personnes à partir, sur leur demande, bien sûr. Et ce sujet de la fin de vie est un sujet qui court depuis des mois. Et quand nous avions enregistré la précédente émission, nous disions que le Sénat avait reçu le texte de l'Assemblée nationale et qu'il allait ouvrir la discussion sur un projet de modification de la loi concernant les soins palliatifs d'une part, mais là on est à peu près sûr que quelques évolutions auront lieu, et sur la fin de vie. Là on est à peu près sûr que les choses bloquent. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé au Sénat ? Est-ce que ce qu'on pouvait craindre a effectivement eu lieu ?
Alors, on va voir surtout dans les semaines qui viennent l'impact que ça aura sur les députés, puisque ça revient devant l'Assemblée nationale. On sait que c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Ce qui s'est passé, c'est vraiment navrant. Bon, moi, je ne me fais pas d'illusions particulières sur le Sénat. Je trouve que c'est une assemblée de bons bourgeois assez réactionnaires. Mais bon, ils ne sont pas tous, d'ailleurs. Hein. On a rencontré quelques sénateurs qui avaient des positions bien plus sympathiques que ça. En fait, c'est sur l'article 4 de la loi que les sénateurs se sont bagarrés. Et ce qui est bizarre, c'est que le refus, le rejet de cet article 4... a été fait par des gens qui avaient des motivations très différentes les uns des autres. Mais en tout cas, on a vu... mais c'était navrant. Moi, j'ai suivi ça hein, sur LCP. C'est LCP, hein, c'est ça.
La 8.
Ouais, sur la 8. Les arguments échangés, mais c'était d'un navrant.
Alors, est-ce que tu peux nous redire ce que contient l'article 4
L'article 4, c'est tout ça. Enfin, pour l'essentiel, en tout cas...
Le projet de loi par cœur.
D'accord, mais pour l'essentiel, c'est le... C'est l'article qui prévoit le droit à mourir. Mmh. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Je ne parle pas du suicide, mais on parle du droit à mourir. C'était, à mon sens en tout cas, et au sens des gens qui militent avec moi, un des rares points positifs. Parce qu'au moins, pour une fois, on y arrivait. Hein, vous vous rappelez que Macron ne voulait même pas qu'on prononce le mot suicide, pas plus que le mot euthanasie, hein, comme si... Des gros mots. Et donc, c'était au moins un pas intéressant. Il y avait un deuxième point, d'ailleurs, moi, que j'avais remarqué. C'était la possibilité de se retourner, au cas où la loi serait votée, contre des gens qui s'opposeraient à l'exécution, enfin, à l'application de la loi en ce qui concerne la fin de vie. Et cette loi, bon, on l'a dit ici, hein, on ne va pas revenir dans le détail, elle ne nous convient pas, elle est largement insuffisante. Mais en même temps, on est capable de voir quelques petits points positifs. Les sénateurs ont fait l'objet d'une campagne de désinformation et de harcèlement hein, par des catholiques, par des gens des soins palliatifs, qui leur ont dit « opposez-vous à cet article-là ». Or, si tu retires l'article 4 dont on vient de parler, la loi elle est vidée mais complètement de son contenu. Il ne reste plus rien. Et c'est dans ces conditions, d'ailleurs, que le texte revient. Alors, on verra bien ce qui va être voté. Ce qu'on pourrait craindre, c'est que certains députés, bon, reviennent un petit peu en arrière, acceptent des amendements qui affaiblissent, qui affadissent la loi. Hein. Voilà. C'est ce qu'on peut dire sur le Sénat, en tout cas. Moi, j'ai écrit un petit article qui s'appelait « Sénat, pauvre Sénat ».
On en a discuté mardi à la réunion. Et un avantage quand même que ça bloque pas le texte va revenir à l'Assemblée nationale, mais le texte d'origine, pas le texte du Sénat, amendé du Sénat. C'est donc le texte d'origine qui va être rediscuté dans ce que l'Assemblée nationale avait déjà envoyé au Sénat. Donc on espère qu'ils ne reviendront pas à moins que ce qu'ils ont déjà dessiné une première fois. Mmh. Après on verra quoi. Mais c'est vrai que je suis d'accord, enfin nous on est... Moi, je suis militant avec Jean-Claude à Ultime Liberté. C'est vrai que la moindre avancée, on sera bien sûr favorable. Mais ça ne nous suffira pas, c'est sûr. Hein, parce que notre exigence, pour certains, elle est trop haute. Mais nous, elle n'est pas trop haute. C'est une loi de liberté qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Hein, c'est pas autre chose. Une loi de liberté. Personne n'est propriétaire de nos vies. Personne n'est propriétaire de nos corps et de... Et de notre mort, c'est à nous de choisir.
On ne peut pas rentrer dans le détail sur toute la discussion qu'il y a eu au Sénat, mais on a vu encore une fois des gens mentir. Parce qu'il y a des gens qui, quelquefois, de bonne foi, sortent des arguments qui n'en sont pas. Mais c'est par manque d'informations. Il y en a, c'est des menteurs.
Donc là, tu veux dire dans les échanges entre les sénateurs?
Absolument. Je me souviens d'ailleurs, mais je l'avais dit ici, j'entends encore Claes, un des deux signataires de la loi...
Léonetti Claes.
Léonetti Claes, qui expliquait tranquillement aux sénateurs, c'était une séance sénatoriale, c'était pas rien, hein, que les directives anticipées étaient contraignantes. Or, là-dessus, il faut arrêter. Il est quand même bien au courant. Il sait très bien qu'on ne peut pas être contraignant, sauf le médecin fait ce qu'il veut en France, jusqu'à maintenant, de ces fameuses directives anticipées. Mais ce que j'ai remarqué aussi, et là, ça m'a inquiété un peu, c'est qu'un représentant d'un institut qui s'appelle Fondapol, je ne sais plus le nom de son directeur, a commencé à expliquer tranquillement, et il l'a fait bien sûr, soit sur BFM TV, soit sur CNews, il a remis en cause tous les sondages qu'il y avait jusqu'à maintenant. Vous savez qu'on dit que 75, 80, 85%, des fois plus, de Français sont pour le suicide assisté et sont pour l'euthanasie. Il explique que c'est faux. Il a fait lui... Alors, mais ce qu'on sait aussi, c'est que Fondapol, c'est très à droite et très catho. Et ah, c'est bah fait oui, c'est, à la demande.
C'est Dominique Régnier, le directeur, voilà, qui oublie de préciser qu'il a été candidat pour, je ne sais plus quelle élection, pour les macronistes ou les républicains.
Voilà.
Et, Donc, il oublie de le dire.
Mais en plus, là, c'est un gros... Enfin, la ficelle est un peu grosse. Moi, j'aurais été là à ce moment-là, je lui aurais dit, mais alors, ça veut dire que même... La convention citoyenne qui était composée de gens tirés au sort, hein, ça veut dire qu'on a truandé les chiffres, hein, 75%, 74 ou 75,4% disaient il faut venir à une loi qui permette qui autorise le droit à mourir. Donc là-dessus, des gens, c'est vraiment, vraiment typique de la désinformation. C'est des fake news pour moi, c'est des mensonges et il faut les dénoncer comme tels.
Ah oui, je vais là en direct sur le site de sa fondation, là, son think tank, Fondation pour l'innovation politique, fondapol.org, et page d'accueil, il y a « Les Français n'approuvent pas la proposition de loi visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté ». C'est exactement le contraire de ce qui est sorti de la Convention citoyenne.
Absolument.
Donc évidemment, il faudrait aller regarder dans le détail sur quels échantillons l'étude a été faite, comment les questions ont été posées, etc. Et par qui elle a été demandée. Oui, oui, c'est toujours intéressant de voir à quelles questions on répond exactement. Oui, Charles.
Je voudrais intervenir sur le rôle des sénateurs, et notamment comment ils sont élus. Bientôt, ce sont les municipales. Quand vous allez voter pour votre maire, pensez que votre maire va voter et appeler à voter pour les sénateurs. Donc, faites attention. Vous pouvez aussi demander à votre maire qu'est-ce qu'il pense sur la fin de vie et quelle est sa position pour savoir vraiment s'il faut voter pour lui ou pas. Voilà. Les sénateurs ont un rôle, bien sûr, qui n'est pas négligeable. Il n'est pas aussi important que l'Assemblée nationale, qui a toujours le dernier mot, en principe. Mais quand vous votez, faites attention à ce qui vous votez pour votre maire, parce qu'il y a beaucoup de maires qui jouent sur leur personnalité. Le sans-étiquette, méfiez-vous du sans-étiquette, surtout en ce moment. Il y a beaucoup d'étiquettes qui sont très brunes, les sans-étiquettes. Oui. Très, très brunes. Alors, si vous avez envie d'avoir une loi de... liberté pour votre fin de vie, demandez à votre mère quelle est sa position à ce sujet-là.
Tu veux dire que contrairement à la petite musique qu'on entend parfois, les élections municipales ne seraient pas de petites élections?
Non, mais tiens, c'est pas politique, tu comprends. Ben non, mais il y a aussi le budget, comment y orienter, hein. On voit si on fait la gratuité des transports, si on fait des cantines bio, voilà, ou si on favorise seulement les bétonneurs.
Non, c'est bien, Charles. Tu nous rappelles qu'effectivement, il n'y a pas d'élection qui soit une petite élection, que tout compte dans notre système démocratique. Et tu fais bien de nous rappeler ce lien entre le fait de devenir maire et d'avoir un poids dans le choix ensuite des sénateurs.
Et que les Français se sont battus pendant des siècles, hein, faut pas l'oublier, pour obtenir ce droit de vote. C'est quand même fondamental, il faut aller voter. Et il n'y a pas effectivement de petites élections. Charles a raison de le rappeler, hein, en ce qui concerne les maires.
C'est pas une élection, mais il y avait un bon début dans les conventions citoyennes quand même. Il y en a eu sur l'environnement, il y en a eu sur la fin de vie. Le malheur, c'est que c'est passé à la trappe tout ça. Les cahiers de doléances, ils sont où?
Ah ben absolument.
C'est ça, donc on habille des choses. Et c'est vrai que la démocratie, elle est vite étouffée par le haut et mise sous cloche. Et on se défend pas assez. On n'est pas assez dans la rue quand il faut.
Exact. Donc, on peut aller voir sur le site de l'association Ultime Liberté. Je crois que le président de votre association a aussi produit un texte pour expliquer pourquoi certains changements étaient alarmants. Et puis, on continue à suivre ce dossier-là et son passage à l'Assemblée nationale, où on peut craindre que des convictions religieuses et le poids de certains lobbies jouent son rôle et empêchent d'aller vers... l'inscription, enfin, dans la loi de ce progrès vers notre liberté jusque dans le choix de notre mort, vers une mort délibérée, comme disait François Galichet, le philosophe qui défend cette option.
Ouais. Et notre secrétaire général, Pierre Blanchet, a aussi publié un document en réponse à l'article du Monde, qui a été signé par une certaine Madame Driard, ou je ne sais plus, qui est remarquable. Et bien sûr, le Monde a refusé de le publier. La première fois en expliquant que c'était un problème de place. Et la deuxième fois, ils ont trouvé un autre prétexte. Il n'a pas été publié. C'est dommage parce que c'était un texte.
Un très beau texte, oui. Sur la page Facebook de la Fédération des libres penseurs de Meurthe-et-Moselle, on peut retrouver ce texte. Il suffit de remonter dans courant janvier. J'avais relayé le texte pour qu'on puisse le lire. Un texte absolument remarquable.
C'est très bien, parce que quand il faut donner des mauvaises opinions d'ultime liberté, on a eu ce torchon dans Le Monde.
Oui, on en avait parlé la dernière fois du traitement par Le Monde de l'affaire, oui, qui était assez, peut-être pas partisan, mais en tout cas orienté. Ouais,
il faut être un peu plus nuancé, enfin, il faut toujours essayer d'être nuancé, parce qu'on a eu deux articles de mémoire comme ça. Il y en a un qui avait été signé par un certain Feuillâtre, qui était très factuel, qui était intéressant. Il n'y avait pas de position, il n'y avait pas d'opposition. En plus, nous, on trouvait plutôt que ça nous était favorable. Et là, d'un seul coup, on a une journaliste, enfin, j'aimerais bien savoir si elle a fait une école de journalisme, celle-là, qui publie un article où elle se contente simplement de reprendre, mais sans aucun recul, les argumentations qui sont présentées par la présidente du tribunal. Et là, c'est remarquable, puisque dans son article, elle parle amateurisme, par exemple. Mmh. C'est un mot qui a été prononcé par la présidente du tribunal. Elle saute là-dessus, et c'est ce qu'elle affiche immédiatement.
Ça en gras, hein, dans l'article.
Je renvoie en podcast sur RCN, sur le site d'RCN, à l'émission que nous avions faite en janvier, où on expliquait bien effectivement les tenants et les aboutissants de ce procès. Messieurs, je vous propose une nouvelle pause musicale. C'est toi, Charles, qui a choisi chanson plus bifluorée, j'ai réussi à le dire, la Marseillaise de la paix.
Bah oui, parce qu'en ce moment, on parle trop de la guerre, d'armement. Il y a des sous pour ça. Mais pour les lits dans les hôpitaux, ça, c'est un peu plus compliqué. Et former le personnel.
De l'universel patrie puisse venir le jour rêvé. De la paix chérie, le rameau sauveur élevé. Le rameau sauveur élevé, on entendra vers les frontières les peuples levant les bras crier, il n'est plus de soldats, soyons unis, nous sommes frères, plus d'armes citoyens, rompez vos bataillons. Des champs et des cités, n'ayez plus peur, ouvrez vos portes au trésor fruit des libertés, au trésor fruit des libertés. C'est trop de siècles de souffrance, de haine et de sang répandu, humain quand nous l'aurons voulu, sonnera notre délivrance. Plus d'armes citoyens, rompez vos bataillons, chantez, chantons, et que la paix féconde nos sillons. Plus d'armes citoyens, féconde nos sillons.
RCN, raison gardée, le dernier lundi du mois à 11h.
Et nous revoilà avec Charles et Jean-Claude. Et pour le dernier temps de cette émission, un petit topo historique, un petit retour en arrière. L'an dernier, en 2025, on parlait de temps en temps dans notre émission de quelques repères autour de la loi de séparation des Églises et de l'État, dite souvent loi de la laïcité. Et on s'est dit, puisque là nous sommes en février, bientôt mars, qu'on pouvait peut-être rappeler certains événements qui ont eu lieu dans la continuité de l'instauration de cette loi de séparation. C'est la question des inventaires. Alors je rappelle très rapidement que avant qu'il y ait la loi de 1905, avant cette séparation des Églises et de l'État, et depuis le concordat de 1801, c'est-à-dire cet arrangement entre le pouvoir temporel et les pouvoirs des Églises avec Napoléon, les bâtiments utilisés par l'Église catholique étaient gérés par des établissements publics du culte.
Les fabriques.
Et la séparation des Églises et de l'État soulève le problème justement de l'affectation des édifices, la propriété des biens de l'Église, etc. C'est l'Église catholique qui est concernée essentiellement. Je ne sais pas quel est le pourcentage de catholiques. Ici ou là, on parle de 90%, 95% de la population française baptisée. Donc c'est très clairement l'Église catholique qui domine la société française.
À l'époque.
Et donc la loi de 1905, elle indiquait qu'il fallait voir comment réattribuer des biens de l'Église aux associations cultuelles.
Absolument.
Qui avaient été constituées. Alors je ne sais pas lequel de vous deux peut nous rappeler ce qu'étaient ces associations cultuelles.
Alors c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Enfin bon, on a peut-être vu, certains d'entre nous ont vu le film qui a été fait sur la séparation des Églises et de l'État, le débat à l'Assemblée nationale, qui était passionnant, d'ailleurs un beau film. Mais il y avait un certain nombre de dispositions, et notamment la création d'associations cultuelles. Et là, l'Église catholique s'y est pas trompée. Elle s'est dit, ces associations-là vont diriger l'Église et l'autorité de l'Église va être mise en cause. Il faut quand même aussi remarquer qu'en janvier-février 1906, puisque ces dispositions sont connues, les choses se passent relativement calmement. C'est à partir de mars que ça commence à se gâter, et notamment à Nancy. Il y a quelques échauffourées, mais on va s'apercevoir assez rapidement que les choses vont tourner au vinaigre. Il y aura mort d'homme. Et alors, on pense toujours... Enfin, moi, je pense toujours à Bechep, c'est une petite commune rurale du Nord, où le boucher du coin s'est fait trucider au moment des inventaires. Mais, beaucoup plus près de nous, à Saint-Nicolas-de-Port, il y a... Alors, nous, ça nous intéresse, les libres penseurs. Il y a un nommé Schumacher, libre penseur. Je ne sais pas si à l'époque, on n'a jamais prétendu d'ailleurs qu'il était franc-maçon, puisque c'était quand même dans la mouvance un peu. Il est, tenez-vous bien, tué d'une balle dans le dos par l'abbé Claude, un abbé de Saint-Nicolas-de-Port. Et quelques mois plus tard, l'abbé Claude passe devant la cour d'assises, avec un autre de ses collègues, et il est acquitté, vous savez, au motif qu'il était en état de légitime défense. Alors, une balle dans le dos à quelqu'un pour la légitime défense, mais ça dit fort bien ce qu'était, il faut se replacer dans le contexte, ça dit fort bien ce qu'était la Lorraine, pas seulement Nancy, mais la Lorraine à l'époque. La Lorraine est profondément catholique. Il ne faut pas oublier que le renouveau catholique, il part de Nancy. C'est les prédications de la Cordère, tout ça. Bon, on n'a pas le temps de revoir tout ça dans le détail, mais la Lorraine est très catholique et elle a à sa tête... Un évêque de choc, un Nancy, c'est l'évêque Turinaz, qui est un type courageux d'ailleurs, mais alors un fou furieux, et qui allume des feux partout. Alors, ce qui va se passer au moment des inventaires...
Donc les inventaires, l'idée c'est qu'il y a des représentants de la République qui viennent pour faire le tour et puis compter
le nombre de ciboires, etc.
Exactement. Et donc on présente cela aux fidèles comme un acte sacrilège, une intrusion inacceptable de la République dans les églises. Et donc effectivement, il y a des prêtres qui organisent un peu...
Précisons, c'est l'ouverture des tabernacles qui a été surtout vilipendée par l'Église. Effectivement, comme tu le dis, s'agissait de faire l'inventaire des biens pour les remettre aux allocataires. Je me marrais parce que je regardais un des articles que j'ai écrit là-dessus, et qui d'ailleurs, bizarrement, est sur le net, parce que je me dis toujours, mes articles ne sont pas sur le net, je l'ai retrouvé sur le net, où le journal Pour la République, qui est un journal, on l'a dit ici, animé par les francs-maçons, et qui disait... c'est important, les inventaires, parce que ça permet de s'assurer qu'il n'y aura pas un curé qui va piquer un ciboire en or et aller le revendre à l'encan. Voilà. Alors, ça se passe mal à Nancy. Dans un premier temps, il y a un premier essai d'inventaire, mais l'évêque Turinas va mobiliser des catholiques de l'époque et ils vont s'opposer physiquement à l'inventaire. Qui vient à faire l'inventaire? Il y a le préfet, il y a les autorités de l'État qui sont là. Et ils se sont fait avoir une fois, pas deux. Et le 13 mars, ils viennent. Et là, il y a deux compagnies ou deux régiments, je ne sais plus très bien, de militaires, de soldats, qui cernent complètement la cathédrale, tout autour. Donc, elle est pas, personne ne peut y accéder. Et on va passer par la porte latérale de la cathédrale, on parlera des crocheteurs, pour rentrer finalement dans cette cathédrale et procéder à l'inventaire. Mais... Ce qui est marrant, c'est qu'il suffit de regarder les cartes postales de l'époque.
Oui,
on parle beaucoup
dire.
De Nancy.
J'étais en train de rechercher sur mon ordinateur de quand elle datait, cette carte postale qu'on avait retrouvée.
C'est Nancy. Nancy. Alors, il n'y a pas qu'à Nancy qui a eu des heurts violents. Alors, on imagine en Vendée, en Bretagne. Mais il n'y a pas eu souvent mort d'homme. En tout cas, il a fallu que ça arrive sur Nancy. Hein. Ce libre penseur a été tué et le journal Pour la République, alors on a profité pour publier une affiche, mais alors qui est merveilleuse, La Révolte Noire, où on voit l'évêque avec sa mitre, sa crosse, et à côté l'abbé Claude avec un pistolet en l'air, on voit la balle sortir du pistolet. Et la légende, c'est « Dans le sang d'un ouvrier fusillé », l'évêque Turinas a fait teindre sa robe de cardinal. Mmh. À un mot près, c'est ça. Et donc, ça va faire scandale, bien sûr, du côté de l'Église. L'évêque va porter plainte et c'est lui qui sera condamné. Alors ça, c'est quand même très marrant parce qu'à un moment, le juge lui dit, d'abord, il lui dit « Monsieur Turinas », il ne lui dit pas « Monseigneur », et il lui dit « C'est vous qui êtes condamné parce que c'est vous qui avez excité les foules et qui êtes responsable de ce qui s'est passé. » Voilà. Mais donc, c'est quand même un événement assez singulier qui s'est passé. Et Nancy n'était pas seulement très catho, mais elle était extrêmement antisémite.
Oui, alors il y a effectivement, et grâce à toi, Jean-Claude, j'avais pu consulter le document, parce qu'on avait fait il y a quelques années une exposition là-dessus. On avait pu consulter le document. On voyait, alors je vais le retrouver, vraiment donc des objets religieux dans les mains de personnages qui étaient des caricatures de juifs. Vraiment quelque chose d'atroce, quoi.
Les voleurs d'église.
Les voleurs d'église. Je retrouve, voilà. C'était un petit feuillet, en fait, comme un quatre pli en deux. L'association de défense sociale par la diffusion de tracts, avec une adresse à Nancy. Et on y voit, donc, trois personnages caricaturés, avec une caricature antisémite. L'un d'entre eux porte aussi des accessoires avec des symboles de la franc-maçonnerie.
Bien sûr.
Et on les voit regarder des objets, ils ont volé une aube,
des ciboires, la légende,
etc. Et en plus, voilà, ils font prendre au personnage des accents un peu germaniques. C'est vraiment trop beau pour les catholiques, je le garde, mais on s'en apercevra, c'est sur l'inventaire. Ne craignez rien, je ferai faire une copie qu'on mettra à la place. Alors, ces voleurs de curés n'y verront rien. Donc, vraiment, la caricature du juif qui veut s'approprier des biens. Et puis, il y avait ensuite tout un texte avec une adresse au peuple de France à propos des inventaires pour que le peuple de France se révolte contre la chose. Et ce que j'ai retrouvé aussi, c'est que, justement, début mars, dans l'Est républicain, peut-être pour essayer de calmer le jeu quand même, il y a en première page un article qui parle des inventaires du mobilier des églises, pourquoi on l'effectue, et qui commence ainsi. En présence de tous les incidents motivés par l'inventaire du mobilier des églises, il semble intéressant de rappeler une fois de plus quelles sont les dispositions de la loi sur les associations relatives à cet inventaire. Et donc, il rappelle quels sont les objets qui vont entrer dans les inventaires descriptifs et estimatifs. Il rappelle, donc il cite des articles entiers. Bon, ils disent bien sûr qu'il y a des protestations des catholiques, mais ils insistent sur le fait que ces biens seront à nouveau attribués aux associations cultuelles et qu'il n'est pas permis à d'autres personnes de s'en emparer. On voit bien qu'il y a une volonté oui. de rappeler un peu pourquoi les choses se faisaient.
Simplement, si tu permets, oui. quand avec le texte de la caricature, si tu peux me la remettre là, c'est bien noté. On va voir.
Le texte, je vais essayer de retrouver. Oui. Tu as le souvenir de quelque chose
l'image, oui, l'image que tu avais montrée tout à l'heure, oui, oui. que tu montrais, c'est la façon dont le texte est rédigé.
Oui, oui, avec des lettres déformées
avec
pour donner à entendre.
Oui, si oui. jamais tu le retrouves, c'est très, oui. très intéressant.
Écoute, il faudra qu'on refasse l'exposition, Jean-Claude.
Ouais,
voilà,
ouais,
quelque
ouais.
part, ce serait intéressant. Mais alors, il y a eu tellement d'événements que quand même le gouvernement a un peu ralenti la manœuvre.
Ah, il a abandonné.
Et a fini par, voilà, par abandonner.
Le gouvernement est tombé là-dessus, il ne faut pas l'oublier.
Oui, hein. Donc il faut quand même imaginer que ça a été d'une violence assez importante.
Une petite remarque simplement, en une seconde, parce que tu disais 90% de cathos. Ou toi, c'est vrai. Et qui a protesté uniquement les cathos? J'ai eu trouvé des documents de la communauté protestante de Nancy qui n'était pas du tout hostile, mais alors pas du tout hostile à la loi de 1905. Mmh. C'est intéressant.
Mais ils avaient peut-être plus à gagner
eux
que l'Église catholique et le pouvoir mi-temporel, mi-spirituel qu'elle prétendait conserver. Oui, Jean.
Moi, deux choses. Turinas, il a toujours une rue à Nancy. Mmh. Et il y a un monument énorme qui s'appelle l'église Notre-Dame-de-Lourdes. C'est une œuvre de ce curé, hein, enfin de cet évêque-là. Une autre chose, moi j'estime que tous les biens de l'église, je dis bien tous les biens de l'église, solides et or et tout ça, appartiennent à la France. Pour la bonne raison, ça a été construit avec l'impôt d'église, avec la dîme. Donc c'est à nous. Il ne devrait pas y avoir de discussion là-dessus, c'est à nous. Et ces lieux de culte, on devrait les louer à ces personnes qui ont besoin d'un lieu pour faire leur cérémonie. Voilà.
Ah, mais la loi met à disposition de l'Église ces lieux de culte, hein, faut pas l'oublier.
Oui, mais bien sûr. Mais il faut voir. De toute façon, ça nous appartient sans nous appartenir, puisque de toute façon, on les entretient. On est obligé. Ça aussi.
Uniquement pour les édifices religieux construits avant
1905. Mais il y en a un certain nombre.
Oui. Oui, oui. Mais uniquement. Tenir c'est-à-dire hors intempéries, c'est-à-dire normalement le toit et les murs. Mais on pourrait revenir sur la loi de la laïcité, séparation des églises et de l'État, au niveau du financement de ces lieux de culte, au niveau des réparations. Quand c'est un monument historique, ça ne pose pas de questions. Mais quand même, il y a beaucoup de communes, avec des églises qui ont été bâties après-guerre et tout ça, même, ou avant-guerre, avant 1905, qui nous coûtent une fortune en entretien, et on change l'harmonium, et on change l'hôtel, et tout ça au frais de la commune. Alors c'est en contradiction totale avec la loi de 1905, pour moi. Hein. C'est aussi au moment qu'on a des élections à l'heure actuelle, de rappeler aux maires, quand même, leur devoir aussi de respecter la loi de 1905 au niveau de la laïcité. Elle est bafouée à longueur de journée partout. Bien sûr, l'exemple, il vient de trop haut. Hein. Quand on a un président de la République qui a été trois fois au Vatican, déjà, en tant que président de la République, c'est le premier déjà à montrer le mauvais exemple. Quand on a encore des Français qui ne sont pas à égalité, notamment en Alsace-Moselle avec le Concordat, il y a aussi encore
un
problème.
Il y a la question du Concordat aussi,
alors,
on pourra en parler à nouveau en Alsace-Moselle.
Pour le moment, ne sert qu'à stigmatiser une population.
D'ailleurs, sur la question du concordat et du financement, il y a eu effectivement quelque chose là autour de la construction d'une mosquée du côté de Metz, je crois. On pourrait en parler ensemble.
La subvention est toujours en place. Il ne faut pas oublier que ceux qui se sont opposés à cette subvention-là oublient qu'on est en plein concordat. Donc, permis. À Strasbourg, ça a été fait. Hein.
On refera une émission là-dessus, Charles. C'est une bonne idée. C'est vrai que souvent, on en dit, mais c'est assez complexe, l'histoire du Concordat. Donc, il faudra qu'on y revienne. Alors on va se dire au revoir, je vous remercie Charles et Jean-Claude. Non sans rappeler que donc le 24 février, le 24 mars, le 24 avril, etc. Regardez dans la presse ce que propose le collectif contre la statue de Bijat. Et n'oublions pas que le 8 mars, c'est la journée pour les droits des femmes. Et c'est pourquoi je vous propose de terminer avec cette magnifique chanson « Debout les femmes » et à très bientôt sur RCN. Merci à Joris pour la technique.
Les femmes hors du monde.